Vous écoutez, on lit pour vous.
Une crise humanitaire dans les rues, les maires ontariens veulent davantage d'aide. Un texte de Radio-Canada avec les informations de CBC, paru le 8 août 2024 sur Ici Toronto. Les grandes villes ontariennes ont des difficultés et ont besoin de davantage d'aide de l'Ontario et d'Ottawa pour s'attaquer aux problèmes du sans-abrisme et des dépendances, dit l'organisme les représentant. Citation. On lutte avec un problème qu'on ne peut régler seul. Fin de citation, explique Marianne Meadward, mairesse de Burlington et présidente de l'Association des maires des grandes villes de l'Ontario, OBCM. Citation. Une crise humanitaire sans précédent se déroule dans les rues de la province. Il y a trop de gens sans logis, vivant dans des campements ou dans des conditions non sanitaires. Fin de citation. A déclaré la mairesse Ward lors d'une conférence de presse à Queen's Park. Dans le cadre de sa nouvelle campagne « Solve the Crisis »,« Mettons fin à la crise », traduction libre, l'OBCM demande aux gouvernements provinciaux et fédéraux d'augmenter le financement pour le logement avec services de soutien, pour les programmes de réduction des méfaits et pour les services de soins en santé mentale. La coalition d'élus municipaux demande à la province de nommer un ministre ou de créer un ministère ayant le financement et les pouvoirs nécessaires pour être le point de contact des villes en matière de logement, de dépendance et de santé mentale. Une quinzaine de ministères sont actuellement responsables de ces dossiers, ce qui complique la création d'une réponse globale aux problèmes auxquels font face les municipalités, dit la présidente de l'OBCM. L'OBCM est appuyée dans ses demandes par l'Association canadienne pour la santé mentale, ACSM, l'Association des municipalités de l'Ontario, AMO, et l'Association des chefs de police de l'Ontario, ACPO. D'après le président de l'AMO, Colin Best, il y aurait 1400 campements dans différentes villes ontariennes. C'était une crise humanitaire dans les rues, les maires ontariens veulent davantage d'aide. Un texte de Radio-Canada avec les informations de CBC, paru le 8 août 2024 sur Ici Toronto.
Le risque zéro, ça n'existe pas. Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 29 août 2024 dans la presse. Avec les inondations causées par la tempête Debby, puis le geyser qui a submergé tout un quartier à Montréal, on a pris conscience depuis à quel point nos infrastructures d'eau sont précieuses. Dans ce contexte, les villes et les gouvernements doivent-ils sortir leur chéquier d'urgence pour réparer toutes les conduites d'eau en mauvais état au Québec? Non, répond catégoriquement Raymond Desjardins, professeur de génie civil et membre de la chaire industrielle en eau potable à Polytechnique Montréal. Le risque zéro, ça n'existe pas, dit-il. On peut essayer de mieux se préparer quand des événements comme ceux-là arrivent. On peut choisir de meilleures conduites dans le futur, mais on ne peut pas avoir de risque zéro. Si on changeait d'urgence toutes les infrastructures d'eau en mauvais état au Québec, ça nous coûterait 45 milliards de dollars, soit 18 milliards pour les conduites d'eau, eau potable, eau usée, eau pluviale, et 27 milliards pour la chaussée au-dessus des conduites. Pour vous donner une idée à quel point c'est une somme astronomique, le gouvernement du Québec dépense environ 18 milliards par an pour tous les types d'infrastructures, les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. La ville de Montréal, elle, dépensera environ 2,4 milliards en infrastructures de toutes sortes en 2024. Ça peut sembler contre-intuitif, alors que des milliers de Québécois ont arraché du GPROC, des plaque de plâtre en bon français, en prononçant sans doute des mots d'église plutôt en nous, mais le réseau d'infrastructures d'eau du Québec est en relativement bon état. En théorie. Selon le plus récent rapport du Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, CIRU, en 2023, 71% des infrastructures d'eau au Québec sont en très bon état, cote A, ou en bon état, cote B, 19% sont dans un état acceptable, cote C, et 10% des infrastructures sont en mauvais état, cote D ou en très mauvais état, cote E. En moyenne, nos infrastructures d'eau sont en bon état, cote B. Certaines conduites, avec une note de D ou E, peuvent encore servir pendant des années, selon le professeur Raymond Desjardins. Il ne sert donc à rien de paniquer et de remplacer toutes les conduites d'eau en mauvais état. En plus, cette méthode de classement, qui tient compte uniquement de l'âge de la structure et du nombre de ruptures, n'est pas parfaite. La conduite défaillante qui a provoqué le geyser à Montréal a été jugée en très bon état, A, lors de sa dernière inspection en 2018. Elle devait être inspectée cet automne. Dans le dossier de l'eau à Montréal, à la suite du geyser, il est évident que la ville, qui inspecte ses conduites d'eau tous les 5 à 7 ans, devra hausser la fréquence des inspections. Inutile donc d'engloutir 45 milliards d'un coup dans nos infrastructures d'eau. Mais ne rien faire serait tout aussi grave. Avec les changements climatiques, les événements climatiques exceptionnels vont l'être de moins en moins. Résultat, nos infrastructures, qui n'ont pas été bâties pour absorber des pluies de l'intensité de celles des restes de débit, seront appelées à devoir le faire de plus en plus souvent. Si on veut éviter que l'arrachage de gyproc dans les sous-sols inondés ne devienne monnaie courante, il faudra renforcer nos infrastructures d'eau et être plus rusés en matière d'urbanisme. On ne peut pas contrôler directement le volume d'eau qui tombe du ciel, mais on peut tenter de diminuer le débit d'eau qui entre dans les égouts grâce à des parcs éponges. Le concept est simple. Vaut mieux que la pluie s'accumule dans nos parcs que dans nos égouts. C'est moins grave d'avoir des parcs qui se transforment en lacs que d'avoir des sous-sols inondés, dit Martin Danfous, maire de Varennes et président de l'Union des municipalités du Québec, UMQ. Lors des inondations en août 2024, le parc de la commune à Varennes ressemblait à un grand lac. Ça a limité les inondations. En 2024 et en 2025, Montréal aménagera une trentaine de parcs éponges et 400 trottoirs éponges. D'autres villes québécoises aménagent aussi leurs parcs selon les mêmes principes depuis des années. Aussi efficaces soient-ils, les parcs éponges ne suffiront pas à la tâche. Il faudra aussi investir plus d'argent, beaucoup plus d'argent, pour adapter nos infrastructures au changement climatique. Toutes nos infrastructures, pas seulement celles pour l'eau. À l'échelle québécoise, l'UMQ calculait, en se basant sur un rapport de la firme WSP, qu'il faudrait investir 2 milliards de plus par année pendant 10 ans pour que les infrastructures municipales puissent faire face au changement climatique. Québec a plutôt donné 360 millions par an pour 5 ans. Une aide beaucoup trop timide, compte tenu des besoins criants. On a tort de pelleter le problème devant soi. Prévenir coûte beaucoup moins cher que guérir. Selon l'Institut climatique du Canada, $1 en prévention, exemple dans les infrastructures, permet d'économiser $5 en dommages directs, exemple réparer les infrastructures, et $10 en bénéfices économiques indirects, exemple baisse de productivité, pour des économies à long terme de $15. À ce compte-là, investir 2 milliards par an pour adapter nos infrastructures au changement climatique, c'est une maudite bonne affaire pour les Québécois. La solution n'est pas de tout remplacer à un prix astronomique pour viser le risque zéro, c'est de s'adapter rapidement et d'inspecter plus souvent. Quelques façons d'adapter nos infrastructures au changement climatique. Source, rapport de WSP pour l'UMQ. Route. Ajout d'additifs dans l'asphalte pour soutenir les climats plus chauds. Choix d'asphalte favorisant le drainage. Pont. Protection additionnelle contre l'érosion, le contrôle du ruissellement et le drainage. Infrastructure d'eau pluviale et usée. Augmentation de la capacité des nouvelles conduites. Quand c'est possible, séparer les réseaux d'eau usée et d'eau pluviale. Bâtiments. meilleure résilience du système électrique, toiture plus résistante aux précipitations. Transport en commun, aménager des rails pouvant subir des climats plus chauds. C'était « Le risque zéro, ça n'existe pas », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 29 août 2024 dans La Presse.
Conférence de Munich, l'espoir d'endiguer la progression du VIH. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 27 août 2024 dans le magazine Fugue. Même un peu avant le début de la 25e conférence internationale sur le sida, CIR, qui se déroulait du 22 au 26 juillet à Munich, en Allemagne, les résultats d'une étude provenant d'Afrique du Sud étaient plus que probants. En injection deux fois par an, on a pu mesurer l'efficacité du lenacapavir à 100% sur un groupe de jeunes femmes qui n'ont pas été infectées par le virus du VIH-Sida. Fabriqué par la compagnie Gilead Sciences, son prix onéreux rebute les experts qui demandent à la pharmaceutique de le réduire. Par ailleurs, il a aussi été discuté d'une personne séropositive et greffée de la moelle osseuse et qui présente des signes de rémission, signifiant ainsi que le VIH n'est plus présent dans son sang depuis maintenant quelques années. Il y avait de quoi réjouir ces milliers de congressistes. C'est le premier congrès où on observe vraiment que la COVID est derrière nous et que plus de 15 000 personnes sont présentes et non pas en virtuel, fait remarquer le docteur Jean-Pierre Routy, médecin au Centre de santé de l'Université McGill, qui a assisté à ce rassemblement. C'est en quelque sorte une grande communion laïque de la lutte contre le sida, d'être tous ensemble et de célébrer tout le travail accompli par tous ces gens qui viennent du milieu de la recherche, de l'éducation, de la médecine, de la prévention, etc. C'est très vaste. C'est là où la couverture médiatique est très forte, si l'on compare à la CROI, Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, un congrès scientifique, NDLR, par exemple. C'était bien aussi de voir des gens provenant d'Afrique. Il y avait ainsi plus de 1000 personnes invitées par la CIR et cela faisait de très bonnes discussions sur la situation dans certains pays. C'est un peu aussi comme aux Jeux olympiques, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment d'être ensemble et de partager un grand moment. En 2023, un peu moins de 40 millions de personnes vivaient avec le virus du sida, le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, révèle le rapport annuel de l'organisation. Environ 1,3 million de personnes ont été infectées l'année dernière, en 2022, soit quelques 100 000 de moins qu'un an plus tôt, tel que le dit un article de Radio-Canada citant un nouveau rapport d'ONU-SIDA en amont de cette 25e conférence internationale. Il faut rappeler que plus de 42 millions de personnes sont décédées du sida depuis la découverte de cette maladie dans les années 1980. Pas un traitement miracle, mais... Comme lors de la conférence de Vancouver en 1996, où on annonçait l'arrivée des trithérapies, il y a eu une ovation debout lorsque la docteure Linda Gale Becker est venue présenter l'étude sur le lenacapavir, poursuit le docteur Routy. C'était un moment magnifique. C'était énorme parce que l'étude portant sur le lenacapavir ouvre bien des possibilités. Le lenacapavir a été efficace à 100% sur des jeunes femmes et des jeunes filles à risque d'être infectées dans ce rapport d'études d'Afrique du Sud, C'était incroyable. La docteure Linda Gale Becker est directrice et professeure au Desmond Tutu HIV Foundation de l'Université du Cap et ex-présidente de la Société internationale du sida de 2016 à 2018, qui organise ces grands congrès. Effectivement, le lenacapavir, Sunlenca, ne nécessite que 2 doses annuelles par injection. Il peut être utilisé pour la PrEP, traitement préventif. Il a été approuvé par Santé Canada en novembre 2022. Mais voilà, le lenacapavir est solitaire, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un autre médicament pour l'aider et l'appuyer, explique le docteur Jean-Pierre Routier. Il lui faut un médicament d'une autre famille, malheureusement. Mais ce n'est que le début. La tendance de l'industrie sera maintenant de passer de la trithérapie à la bithérapie. On observe aussi que ce sont des médicaments moins toxiques qu'ils ne l'étaient. On va avoir des médicaments une fois par mois, comme le cabotegravir, produit par VIIV Healthcare en injection, par exemple. Encore là, on pointe vers la bithérapie. C'est un bel avancement qui ouvre bien des portes. Encore là, c'était extraordinaire de voir ça. Par contre, le gros bémol pour le lenacapavir est pour le moment son coût prohibitif, soit 55 000 $ présentement pour 2 doses. Je sais qu'il y a des débats très forts sur le prix du médicament. Il y a beaucoup de pression. L'image publicitaire de Gilead est tellement forte que cela pourrait lui être avantageux de plier. Je ne suis pas un spécialiste pour fixer les prix, mais je pense que Gilead pourrait faire un effort ici. La baisse serait compensée par le nombre de patients sous ce traitement. De commenter, ce médecin, qui est le directeur du réseau SIDA et maladies infectieuses, FRQ-S. De 55 000 $, les scientifiques estiment qu'un prix raisonnable et accessible de 55 $ pourrait être acceptable. C'est ce qui a été affirmé lors du congrès. Gilead Sciences va-t-elle entendre les adjurations des experts? Là est la question. Le nouveau patient de Berlin. Il y avait une autre bonne nouvelle, puisqu'on a amplement discuté d'un patient greffé de la moelle osseuse et qui, de toute évidence scientifique, serait en rémission du VIH depuis quelques années. Cela a été révélé à quelques jours de la conférence, puis largement discuté par le milieu scientifique durant ce congrès. Mais de quoi s'agit-il au juste? Eh bien, c'est un homme de 60 ans qui n'a pas voulu être identifié, qui a été déclaré séropositif en 2009, puis en 2015, et qui a reçu une greffe de moelle osseuse à la suite d'une leucémie. 6 ans plus tard, on constate qu'il n'a plus de charge virale, et ce depuis plusieurs années, alors qu'il avait apparemment cessé ses traitements antirétroviraux en 2018. Ce sont les données présentées par le docteur Christian Gabler de l'hôpital de la Charité de Berlin, qui est le médecin soignant de ce patient. Le cas de ce patient est très évocateur d'une guérison du VIH, a-t-il déclaré à l'AFP, tel que rapporté par Radio-Canada. Ce patient allemand est vraisemblablement le 7e cas de rémission à long terme. Timothy Ray Brown était le premier patient de Berlin guéri du VIH-Sida en 2008, selon les scientifiques. Il a été emporté par un cancer en 2020. Mais voilà que le nouveau patient de Berlin a reçu des cellules souches de donneurs de moelle osseuse avec une mutation rare d'un gène appelé le CCR5, une mutation déjà reconnue dans les milieux du VIH-Sida, pour bloquer l'entrée de ce virus dans les cellules. Tel que le cite Radio-Canada, ces donneurs avaient hérité de deux copies du gène muté, une de chaque parent. Le nouveau patient de Berlin est le premier à avoir reçu des cellules souches d'un donneur n'ayant hérité que d'une copie, une configuration beaucoup plus courante, faisant espérer davantage de donneurs potentiels. Ce patient a reçu un seul des deux gènes, et cela a marché. Cela a pu conduire à une guérison. C'est scientifiquement intéressant, mais c'est un tout petit pas dans la bonne direction, indique le docteur Jean-Pierre Routy. Cela a bien sûr été très médiatisé, parce que le patient est allemand et que le congrès se déroulait à Munich. On pourra maintenant trouver plus facilement des donneurs. Il faudra que les deux parents soient porteurs du gène CCR5. Mais la greffe de moelle osseuse reste très, très rare. Cela ne change pas grand-chose dans le quotidien, mais cela vaut la peine de poursuivre les études dans ce sens-là. Chaque conférence internationale sur le sida apporte des avancées scientifiques qui pourraient ouvrir la porte à de nouvelles cures. En tant que bénéficiaire de la trithérapie, d'une greffe entre donneur et receveur séropositif et de l'avancée indétectable, intransmissible, j'ai accepté que mon cas soit publié dans les médias grand public afin de contribuer à la déstigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Mon parcours montre combien les progrès médicaux ont transformé ma vie. Mais ces avancées n'atteindront leur plein potentiel que si chaque individu, indépendamment de sa situation, peut accéder aux soins nécessaires. La lutte contre la stigmatisation et la discrimination est essentielle pour permettre à tous et toutes de bénéficier des traitements disponibles sans crainte de jugement ou d'exclusion. De commenter pour sa part, le Montréalais Denis Cormier-Piché, qui est le premier Nord-Américain à bénéficier d'une greffe d'organes entre donneurs et receveurs vivants avec le VIH-Sida. C'était Conférence de Munich, l'espoir d'endiguer la progression du VIH. Un texte d'André Constantin, Passiour, paru le 27 août 2024 dans le magazine Fugue.
Un premier carrefour Bixi pour réduire les délais de réparation. Un texte de Florence Bordelot-Gagné, paru le 24 juillet 2024 dans Le Devoir. Pour assurer une meilleure disponibilité de ses vélos, Bixi a lancé mercredi le 24 juillet 2024 son premier carrefour Bixi afin d'effectuer un entretien préventif plus efficace de sa flotte et de permettre la remise en service plus rapide des vélos endommagés. Ce premier carrefour se situe au parc La Fontaine, à l'intersection de la rue Rachel et de l'avenue Calixa-Lavallée. Il a été mis en place après des analyses statistiques de données portant sur l'achalandage du service. Les équipes d'analyse, de planification et d'opération ont étudié les quelque 70 millions de déplacements qui ont été effectués dans les 16 années de service de Bixi. Le comportement d'utilisation des usagers, croisé à la popularité grandissante des dernières années, a conduit à l'idée de grandes stations multifonctionnelles décentralisées. On veut être toujours plus rapide et proche des besoins des gens, explique Pierre-Luc Marié, directeur du marketing chez Bixi Montréal. L'organisme de vélopartage prévoit mettre en service 7 carrefours d'ici 2027, répartis sur un large territoire. Les différents sites accueilleront des quantités plus importantes de points d'ancrage, 70 au parc La Fontaine et des stations de réparation de vélos pour les cyclistes non membres. Des employés de Bixi seront sur place pour réparer les vélos et faire des mises au point générales, en plus d'informer les usagers. De véritables poumons supplémentaires pour le réseau, assure M. Marier. Tous les vélos Bixi désignés par les usagers comme étant à réparer, pour des raisons allant de la crevaison à la sonnette desserrée, prennent actuellement plus de 48 heures à revenir sur le circuit. L'équipe doit aller les chercher, les apporter au centre de service central situé dans la petite Italie, les réparer, puis les remettre en circulation. Avec les nouveaux carrefours, Bixi pense réduire le temps de réparation pour les bris mineurs à 8 heures. De belles économies se profilent à l'horizon. En plus de mieux répondre aux besoins des usagers, continue Pierre-Luc Marier. Les bris les plus communs sont liés aux crevaisons. Et 11 000 vélos, ça implique 22 000 roues, rappelle M. Marier. Désormais, ce type de problème pourra être réglé directement dans les carrefours. Bixi n'a cependant pas voulu dévoiler le nombre de plaintes reçues annuellement à ce sujet. L'objectif, c'est de toujours avoir le plus de vélos disponibles. Les éléments à améliorer, il y en a plein, notamment les pneus. On teste cette année différents produits et configurations. On est présentement en récolte de données à ce sujet, explique M. Marier. La redistribution des vélos dans le réseau après les heures de pointe constitue aussi un défi de taille pour l'organisme. Des clients se heurtent ainsi parfois à des bornes vides ou encore à des bornes pleines quand vient le temps de remettre le vélo à la fin d'un déplacement. Des équipes sont mobilisées tous les jours pour transporter en camion des vélos d'un lieu à l'autre. Le programme Ami Bixi donne aussi un bon coup de pouce de ce côté. Ce système permet aux membres qui activent la fonctionnalité d'accumuler des points de récompense si le vélo est remis dans une station vide ou presque vide. On a de bons chiffres de croissance pour le programme, depuis qu'on a bonifié les récompenses cette année. En effet, 20% de plus de nos abonnés ont activé le programme Ami Bixi. Les gens aiment ça. Ça crée un sentiment d'appartenance très fort et ça a aussi un aspect ludique. Pour ce qui est du projet de Bixi en hiver, il est officiellement reconduit pour la saison 2024-2025, mais l'organisme est encore en période d'évaluation quant aux façons de contrer les problèmes liés au froid. À l'hiver 2023, de nombreux usagers se sont plaints de sièges impossibles à ajuster à cause du gel et de bornes inutilisables pour la même raison. C'était un premier carrefour Bixi pour réduire les délais de réparation. Un texte de Florence Bordelot-Gagnier, paru le 24 juillet 2024 dans Le Devoir.